Je mets ça là, comme si j'ai le pistolet. Bonsoir. Bonsoir. N'hésitez pas à vous rapprocher pour. Voilà, comme ça, ça sera plus facile pour vous pour entendre. Si vous voulez bien, on va, comme d'habitude, demander à Notre-Dame de la Roche de nous accompagner dans l'accueil de ce beau projet de Dieu pour nous, comme elle-même a su accueillir le Christ, notre Rédempteur. Eh bien, demandons à Marie d'être notre modèle, de nous aider, de nous éduquer, de nous prendre dans cette, de nous apprendre à accueillir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Roche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va poursuivre ce beau projet de Dieu pour chacun de nous. Et avant de commencer, je vais vous montrer un petit dessin. Alors évidemment, on ne le voit pas dans l'enregistrement. Mais l'idée, c'est qu'on vous remette un petit peu, parce que peut-être que certains n'étaient pas là au début. Mais voilà, pour que vous remettre un petit peu le chemin qu'on a fait. On a commencé par l'appel de Jésus aux origines, qui nous parle des origines. Jésus qui fait ce qu'on appelle l'appel des origines. C'est-à-dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous savez, quand les disciples demandent au Seigneur, est-ce qu'on peut se remarier? Vous vous souvenez de ça, hein? Et donc le Christ fait appel aux origines. Ensuite, il y a eu un deuxième appel, c'est l'appel au cœur. Rappelez-vous, c'est cette... comme on s'est détourné du projet de Dieu, qui était inscrit à l'origine, c'est inscrit dans nos corps, cet appel au don que nous avons en nous, on s'en est détourné, et du coup on a perdu cette capacité à comprendre le don. Puisqu'on a perdu le regard de Dieu sur nous, on s'est un peu aveuglé sur la capacité à nous donner et à accueillir l'autre comme un don. Donc on va dans la domination, dans la chosification, dans, vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu glauque hein, cette fois-là, vous vous rappelez? Mais le Christ est venu et vient nous restaurer. Et puis le dernier appel, c'est l'appel à la vie éternelle. On a rencontré un jeune tout à l'heure qui a découvert cet enseignement et qui nous a dit, j'ai compris qu'en fait ce projet de Dieu pour l'homme, ces enseignements que Saint Jean-Paul II nous donne, nous montrent que le corps est le pivot du salut. Le corps nous permet de comprendre qu'on est tous appelés au salut. C'est magnifique comme résumé. Voilà. Et alors vous voyez, ces trois cubes qui sont là ont comme un toit dessus. Jean-Paul II appelle ça le couronnement. Le couronnement qui va éclairer tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce n'est pas la partie la plus facile. De temps en temps, vous allez peut-être décrocher. Ce n'est pas grave. Prenez ce que vous prenez, d'accord? Recevez ce que vous allez recevoir et méditez là-dessus. Vous allez voir, on est tout près de ce don total du Christ qu'on va vivre déjà la semaine prochaine par le dimanche des Rameaux et puis par cette Pâque qui arrive où le Christ se donne totalement. Voilà, je pense que ça va éclairer en fait ce chemin avec l'ouverture de la Semaine Sainte dans une semaine.
Donc dans cette quatrième partie, comme l'a indiqué Marie-Brielle, nous allons parler du mariage et du sacrement. En effet, nous allons suivre la réflexion de Saint Jean-Paul II sur la sacramentalité du mariage. Étonnamment, cela ne concerne pas que les gens mariés. Même si nous verrons que le mariage chrétien doit être compris non pas tant dans le sens d'une institution sociale et culturelle, mais comme une réelle vocation chrétienne, c'est-à-dire comme la réponse à un appel. On vient d'en parler. Pour cela, nous allons partir du texte de Saint Paul aux Éphésiens qui constitue pour Saint Jean-Paul II le couronnement des trois paroles clés du Christ sur le corps et qui nous éclaire par le haut chacune de ces paroles. Saint Jean-Paul II étudie ce texte après avoir expliqué sa vision globale de la personne, sa corporealité, sa sexualité ainsi que la vocation au célibat pour le royaume. Après quoi, et seulement après quoi, il s'interroge sur ce qu'est le mariage, sa signification et la vie des époux. Ce texte éclaire d'une lumière nouvelle le plan de Dieu aux origines en renouvelant la dimension du don, ce à quoi nous sommes tous appelés. L'éternité qui nous attend en nous inscrivant dans la perspective de la résurrection finale, des noces éternelles du Christ et de l'Église. Le temps présent également, aujourd'hui, en révélant à l'homme héritier du péché, ce que nous sommes, la vérité essentielle sur le mariage et les moyens de le vivre. Alors on va, juste pour resituer, lire ce passage des Éphésiens. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagné d'une parole. Il voulait se la représenter, cette Église, à lui-même, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin, c'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Comme nous allons le voir, la grandeur du mariage réside dans un même mystère. L'union de l'homme et de la femme peut se comprendre à la lumière de l'union parfaite du Christ et de l'Église. L'Épître aux Éphésiens nous fait comprendre et formule un appel à une vie nouvelle dans le Christ. Comment le don du Christ sur la croix nous éclaire sur notre façon de nous donner? Et nous allons avoir cette chance de pouvoir à nouveau le contempler. Cet épître également nous fait comprendre le sens du sacrement du mariage. Ce texte se lit enraciné dans le Christ pour réellement comprendre la réalité de cet amour. En effet, les noces du Christ de l'Église révèlent ce qu'est le don nuptial par excellence. Nous allons avoir quatre parties. Une première, qu'on appelle la grande analogie. On détaillera ça plus tard. La deuxième, la soumission réciproque. Une présentation du sacrement primordial qui éclaire le premier volet, celui des origines. Et le mariage, prototype des sacrements de la Nouvelle Alliance, qui éclaire l'alliance de l'Église et du Christ.
Donc on a entendu des mots compliqués, hein, analogie, sacrement primordial, prototype. On va creuser ça ensemble, vous allez voir, finalement ça va être assez facile. Et quel que soit votre état de vie, laissez-vous toucher par la beauté de cet enseignement que nous donne Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Alors d'abord, cette grande analogie. Il faut distinguer ce qu'est une métaphore et une analogie. Une métaphore, c'est une image à vocation pédagogique. Le Christ, dont l'Évangile parle sans arrêt avec des images pour nous aider à comprendre, d'accord ? Dans les topos qu'on vous a fait, déjà, on a pris plusieurs images pour aider à comprendre, d'accord ? L'analogie, même imparfaite, est beaucoup plus forte. Elle exprime un rapport fondé dans la réalité. C'est une comparaison entre deux notions qui ont des points communs. La comparaison qui est établie par saint Paul dans Éphésiens 5 entre le rapport des époux dans le mariage et le rapport sponsal du Christ époux et de son Église est une analogie, ce n'est pas une métaphore. C'est-à-dire que ça exprime quelque chose de réel. En d'autres termes, nous sommes invités à regarder et à méditer le lien entre le Christ et l'Église, chacun de nous, quel que soit notre état de vie. Et on est invité à le faire pour mieux comprendre ce qu'est le mariage, mais pour mieux comprendre aussi ce qu'est le don total, désintéressé, sans retour, que les époux sont appelés à faire. Et on va voir au fur et à mesure que ça concerne tout le monde. Par le don de sa vie, le Christ... où est-ce que je suis ? Par le don de sa vie, pardon, le Christ est venu racheter l'humanité. Cloué sur la croix, il fait librement le don de lui-même à son épouse, l'Église. C'est-à-dire vous tous ici et vous tous qui écoutez sur le site de la paroisse. Chaque personne accueille, est invitée à accueillir le don du Christ. Son sacrifice est un don total, libre, absolu, sans retour pour moi. C'est un don de nature sponsale. On a déjà vu ce mot au début, sponsale, qui nous fait comprendre la dimension d'épousaille et cet appel qui est au cœur de chacun. De même que Ève a été formée du côté d'Adam qui était endormi, eh bien l'Église est née du côté du cœur du Christ transpercé qui est mort sur la croix. Au don du Christ, l'Église, nous tous ici, on est appelé à répondre en se soumettant au Christ, en nous donnant à lui. Et nous sommes appelés à le recevoir en lui offrant tout notre amour. L'union du Christ et de l'Église est un don mutuel et total. On peut aussi dire que Dieu est venu sauver l'humanité en s'incarnant pour l'épouser. À ce don du Christ, l'humanité est appelée à répondre en se soumettant et en se donnant à lui, et en le recevant et en lui offrant tout son amour. Donc vous voyez que ça concerne tout le monde, et le prêtre, et les personnes mariées, et les personnes non mariées. Tous sont appelés à accueillir le Christ qui se donne pour son Église dont je suis membre. Et je suis invitée à accueillir ce don et à m'offrir à lui. Tel est le grand mystère que nous contemplons et que nous vénérons dans la croix du Christ. Par cette vénération de la croix, nous entrons, vous voyez qu'on est vraiment dans l'actualité, hein, par cette vénération de la croix, nous entrons avec toute l'Église dans l'attitude de l'épouse qui accueille, qui reçoit avec amour le don de son époux et veut se donner à son tour par amour. Elle veut lui plaire et se soumettre à lui. En contemplant la croix, je suis appelée à me soumettre au Seigneur, à l'aimer et à me donner à lui. Ces épousailles entre le Christ et l'Église disent beaucoup sur notre façon à chacun de nous d'accueillir le don du Christ dans notre vie. Comment je réponds à ce don total au Christ, moi personnellement? Comment je me donne au Christ? Comment je lui offre tout mon amour? Le Christ époux ne cesse de former son épouse au don d'elle-même, jusqu'au dernier jour où il viendra dans la gloire pour recevoir le don plénier de son épouse pour les noces éternelles dans la résurrection finale. Et il ne cesse de nous former à ce don année après année, et cette liturgie nous y aide. Dieu nous a créés pour nous épouser. Ça, on l'avait vu dès le départ, hein, pour ceux qui étaient là au début. Pour comprendre ce qu'est un mariage sacramentel, il faut le voir par rapport à cette analogie, c'est-à-dire ce lien réel qui doit entretenir avec l'union sponsale du Christ et de l'Église. Saint Jean-Paul II nous dit « Le mariage ne correspond à la vocation du chrétien que si il reflète l'amour du Christ et de l'Église donné, l'amour du Christ époux donné à l'Église son épouse, et que l'Église s'efforce de rendre au Christ, ce qu'on a vu. Il n'y a qu'un seul mariage qui se réalise de cette plénitude de la réalité entre le don du Christ et de l'Église, et ce don qui se fait entre l'homme et la femme. Jean-Paul II insiste bien sur le « que si ». Notre mariage n'a de sens que s'il reflète ça. Ou du moins, on essaye. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, en dehors de cette conformation, en dehors de d'essayer de se conformer à ça, de ressembler à ça, eh bien le mariage, dans ces cas-là, n'a pas perdu sa vocation. Il est juste un conformisme social. On est appelé à aller comme le Christ jusqu'à l'offrande totale de soi. Aller comme l'Église jusqu'au don total de soi, dans le martyre par amour de l'époux. À cause du péché, malheureusement, on a du mal à entendre cet appel qui est inscrit en nous. Cet appel au don total pour réaliser notre vocation. À cause du péché, on a du mal à voir ça. Et on est pourtant appelé, pour réaliser notre vocation, à se perdre pour se retrouver, à s'oublier pour s'accomplir, à se donner pour aimer. C'est pourquoi le Saint-Père nous dit que le passage de la lettre aux Éphésiens manifeste pleinement l'homme à lui-même. Il lui permet de découvrir la sublimité de sa vocation. Le don sincère de lui-même. On est loin des prototypes ou des mauvaises images qu'on a de ce texte. Vous comprenez que ce texte, en fait, nous aide, surtout en ce moment, une semaine avant le dimanche des Rameaux, à cheminer vers l'accueil du don total du Christ sur la croix.
Je rajouterais un point, ce n'est pas, je dirais, une démarche globale. C'est pour chaque... Quand on lit l'Écriture d'aujourd'hui, l'Évangile du jour, on est invité à méditer ce don total pour chacun d'entre nous. Imaginons, nous avons du mal à l'imaginer parce que nous ne sommes pas Dieu. Et imaginez que Dieu se donne totalement pour chacun d'entre nous, individuellement, aujourd'hui. Alors que dans l'histoire, il s'est donné il y a 2000 ans. Mais c'est pour déjà il y a 2000 ans, il pensait à nous aujourd'hui. C'est un mystère, justement, de l'amour infini de Dieu.
Et
à moi particulièrement. À nous, il pensait à nous aujourd'hui. Voilà.
Et alors, pour conclure, cette partie que nous venons de voir, cette grande analogie, en fait, éclaire cette partie-là sur la résurrection. Parce que ce sont ces noces du Christ et de l'époux, c'est quand le Christ époux viendra prendre son épouse pour la vie éternelle. Donc ça éclaire ce passage-là de la vie éternelle.
Alors quand on lit ce texte des Éphésiens, la plupart du temps, on a une mauvaise interprétation de ce qu'on entend par soumission. Saint Jean-Paul II va nous éclairer un petit peu sur ce qu'est cette soumission mentionnée par Saint Paul. Lorsque Saint Paul nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », la compréhension immédiate n'est pas toujours très positive. Il s'agit d'une soumission réciproque à son mari et du mari à sa femme. Réciproque. Pourquoi ? Et vous, mari, aimez vos femmes. Et si le mari aime sa femme, en vérité, il devra être également soumis à elle dans l'amour. Le texte, il faut lire tout le texte. La soumission, elle est complètement réciproque. Donc c'est se mettre sous l'amour de l'autre et réciproquement. C'est le fondement même de la communion. C'est le fondement même de l'union de l'homme et de la femme. Cette nouvelle interprétation favorise le respect du caractère sacré de chacune des personnes et l'inviolabilité de chacune de des personnes qui sont engagées dans ce mariage. Chacun se reconnaît comme frère et sœur et je dois prendre soin de l'autre, car seul cet autre m'est confié par Dieu. Cette soumission mutuelle est le signe, mais également le fruit de l'authentique libération de l'homme et de la femme. Le Christ est venu nous relever, il est venu nous guérir de la convoitise, il est venu nous guérir des conséquences du péché. Avec le Christ, nous retrouvons le véritable langage de notre corps tel qu'il était à l'origine, mais en plus, il est sauvé par le Christ. Ce corps qui est la signification, l'expression même du don. Ce langage du corps est relu dans la vérité, vérité de la personne, image de Dieu. Nous sommes des images de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. En d'autres termes, ne pas accueillir le don du Christ dans sa vie, ne pas lire dans son propre corps la réalité du don qui s'incarne et qui doit s'incarner, c'est détourner quelque peu la vision que Dieu peut avoir pour chacun des hommes et chacune des femmes. Cela conduit rapidement à une domination de l'un par l'autre, une chosification de l'autre. L'autre devient ma chose. C'est comme une profanation du corps de l'autre. C'est dur de dire ça, mais c'est une réalité. Et donc c'est aussi comme si on abîmait, comme c'est une profanation de l'image du corps de l'autre, et que le corps de l'autre est l'image de Dieu, c'est une profanation de Dieu lui-même. Cette soumission dans l'amour n'est pas une résignation ou un refus du plaisir, bien au contraire. C'est du Christ que la femme apprend ce qu'est le don généreux, le don total, pour vivre dans son don à son mari, comme l'Église apprend du Christ à lui rendre son amour. L'amour du Christ pour son Église est le modèle de l'amour du mari pour sa femme. Il est donc appelé à regarder vers Jésus pour vérifier la qualité de son empressement et mieux aimer son épouse. Le plaisir est le couronnement d'un acte d'amour, un don de soi, qui inclut aussi la manifestation, bien entendu, de la tendresse, de la joie. Lorsque les époux se donnent l'un à l'autre, ils vont puiser leur amour à la source même de l'amour. Le Christ donné pour nous, qui nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Cette méditation, l'Église nous la propose chaque année. C'est une grande grâce que nous devons, je dirais, saisir et prendre le temps de cette méditation. À la domination réciproque qui résulte du péché doit se substituer dans l'ordre de la rédemption du corps, la soumission vraiment réciproque, éclairée par la relation sponsale du Christ et de l'Église, modèle de la relation des époux dans le sacrement du mariage. Éphésiens 5 éclaire de la lumière la plus haute du deuxième volet du triptyque scripturaire, de la théologie du corps, l'adultère, le péché, l'adultère dans le cœur. Et pas uniquement, c'est pas uniquement un péché de la chair, c'est aussi un péché plus profondément du cœur. Et cela en donnant la raison la plus profonde du nécessaire affranchissement que nous devons avoir vis-à-vis de la domination, de l'instrumentalisation de l'autre qui est le fruit du péché.
Donc on a vu comment Éphésiens 5, ce couronnement, a éclairé cette partie-là, et on continue la troisième partie sur le sacrement primordial. Encore un mot compliqué. Comment comprendre l'expression, Jean-Paul II parle de sacrement primordial pour parler du mariage? Alors, il ne faut pas le comprendre dans le sens où c'est le premier des sept sacrements. Le premier, c'est le baptême. Très bien. Né dans le sens où il serait le plus parfait. Le plus parfait, c'est le Eucharistie. Mais le mariage est sacrement primordial dans le sens où il est dès l'origine. Le centre et le sommet du sacrement de la création. Ce par quoi Dieu a voulu se révéler dans son être trinitaire de communion, d'amour, de personne. Hommes et femmes, il les créa à son image, c'est-à-dire qu'en regardant Dieu Trinité, on comprend que l'homme et la femme sont faits pour la communion. D'accord ? Donc c'est là où Dieu se révèle dans la création de l'homme et de la femme. Ça va ? Les deux sens du mot sacrement. Il y a le sens restreint, c'est-à-dire signe institué par le Christ, administré par l'Église, et qui sont source de la grâce. Ça, je cite le catéchisme de l'Église catholique. Il y a les sept sacrements. Mais il y a aussi le sens ample et ancien qui est utilisé par Jean-Paul II. C'est le secret du plan d'amour caché dans le cœur de Dieu de toute éternité et qui est lié au salut. Secret du plan d'amour caché dans le cœur de Dieu. Le sacrement de la création et de la rédemption est sacrement de l'Église avec ses épousailles de l'humanité, du Christ qui épouse l'humanité. Je vous cite quelques phrases de Jean-Paul II parce qu'elles sont importantes. Donc c'est de la théologie du corps, chapitre 19, pour ceux qui veulent aller plonger dedans. L'homme apparaît dans le monde visible comme l'expression la plus haute du don divin parce qu'il porte en lui la dimension intérieure du don. Avec cette dimension, il porte dans le monde sa ressemblance particulière avec Dieu. Vous me suivez toujours ? Par laquelle il transcende et domine également sa visibilité dans le monde. Dans sa corporité, avec sa masculinité et sa féminité. Ainsi, dans cette dimension, se constitue un sacrement primordial, entendu comme signe, le sacrement qui est un signe qui transmet efficacement dans le monde visible, le mystère invisible caché de Dieu depuis toute éternité. Le sacrement, c'est quelque chose qui est... Il y a un signe visible qui manifeste un signe, une réalité invisible. D'accord ? Le sacrement primordial, parce que l'homme et la femme, dès l'origine, expriment, manifestent de façon visible par leur corps le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité qui est de s'unir à lui. Ça va ? À l'origine, la Trinité se dit à travers la communion dans l'amour de l'homme et de la femme. Elle s'est révélée premièrement de façon primordiale. Le mariage est ainsi signe de la chair, de la communion d'amour trinitaire. Donc, ce mariage d'Emmanuel et Marie-Gabrielle est signe dans notre chair de la communion d'amour trinitaire. Dieu a révélé son éternel plan d'amour pour l'homme à travers le mariage. Vous comprenez qu'en détruisant le mariage et sa signification, si je prends la phrase à l'envers, ça nous permet de détruire l'éternel plan d'amour de Dieu pour l'homme. En restaurant le mariage, je restaure l'éternel plan d'amour de Dieu pour l'homme. Le mariage du premier homme et de la première femme est le sommet dans sa création, ce par quoi Dieu se manifeste. Le mariage, à l'origine, est en ce sens le sacrement primordial. Vous avez fait des pas de géant, hein, quand même, avec tous ces mots compliqués. Et donc, on arrive à cette partie, ce volet-là. Donc, quand on parle d'un triptyque, vous voyez, on a vu cette partie-là, la résurrection, la chute, le péché, et puis l'origine. Donc, on a vu les trois volets du triptyque avec ce couronnement qui vient nous éclairer cette partie-là. D'accord ? Et en finale, comme un feu d'artifice, on va avoir le mariage qui est, alors encore un mot compliqué, prototype des sacrements de la Nouvelle Alliance. En quoi le mariage va éclairer tous les sacrements ?
Donc c'est l'approche de Jean-Paul II, cette théologie du corps, apporte à la théologie sacramentaire un renouvellement, un renouveau, à travers l'approfondissement de cette sacramentalité du mariage. Dans le péché originel, le mariage a cessé de signifier ce qu'il avait au départ comme vocation, comme l'indiquait Marie-Gabrielle, de signifier aux origines l'amour de Dieu et la vie de cet amour de Dieu. Il est devenu tout ce dont témoigne l'histoire des hommes. Il est devenu la domination mutuelle, la concupiscence, l'appropriation de l'autre. Cependant, Dieu ne cesse de vouloir se dire, malgré tout, dans son être trinitaire, dans ce don à l'intérieur de sa vie interne, dans son dessein d'amour également pour l'homme à travers le mariage, moyennant l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ. Le cinquième chapitre de la lettre aux Éphésiens, en proclamant que l'amour divin est un grand mystère, lit l'ensemble des éléments de la rédemption, l'ensemble des composants de cette rédemption. Il établit clairement le lien entre le langage du corps, notre propre corps, nous, à chacun d'entre nous, et le langage liturgique qui parle tous deux de la rédemption. Il donne toute sa valeur au mariage en identifiant que dans le plan de Dieu, ce mariage est signe de la communion entre le Christ et l'Église, en même temps qu'il donne à chacun des époux un modèle à suivre pour vivre conformément au plan de Dieu. Tous les sacrements qui nous ont été mérités par l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix sont donc revêtus de la nuptialité des rapports du Christ époux et de l'Église épouse. Ce Christ rédempteur, et il est rédempteur, car il se veut l'époux, et l'Église, par cette épousaille, se trouve sauvée. C'est pourquoi le mariage devient un prototype, un modèle exemplaire des sacrements de la Nouvelle Alliance. Tous les sacrements découlent du rapport sponsal qui lie le Christ et l'Église. Saint Paul éclaire en profondeur la nature de l'Église. Elle est réellement épouse du Christ qui est réellement son époux. Accueillir la rédemption, c'est pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous, accueillir le Christ comme époux et se donner à lui. Accueillir la rédemption, c'est pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous, accueillir le Christ comme époux et se donner à lui. Plus largement, quel que soit notre état de vie, nous sommes sur un chemin de croissance dans le don, pour accueillir l'autre au lieu de le prendre pour soi et de l'utiliser, pour se mettre à son service au lieu de le dominer, pour être pour l'autre un lieu où on va pouvoir se donner mutuellement et l'autre l'accueillir tel qu'il est et se donner à lui tel qu'il est pour qu'il puisse nous recevoir et que lui puisse se donner à son tour. Dieu nous appelle à la conversion en ce sens de notre propre cœur. Il nous invite à croire que le Christ est venu nous sauver de notre concupiscence, de notre égoïsme, qu'il est venu sauver notre sexualité qui est belle, la rendre à nouveau le lieu de la révélation du mystère de Dieu, le lieu du don, de la communion qui donne la vie, le lieu où jaillit la joie. Éphésiens éclaire en profondeur la nature de l'Église. Elle est réellement cette parole et cette Église épouse du Christ, qui est réellement son époux. Elle permet d'accueillir la rédemption. C'est pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous, accueillir le Christ comme un époux, donc se donner à lui.
On a vu ensemble que cet éclairage, cette lumière d'Éphésiens 5 correspond à chaque état de vie. J'insiste, mais le prêtre ou la personne consacrée, le prêtre particulièrement qui épouse l'Église, en fait, se donne à l'Église, mais par le don qu'il fait à son Église, il épouse le Christ, il permet à toute l'Église d'épouser le Christ. La personne non mariée, par l'accueil qu'elle fait du Christ, son époux, eh bien, permet à toute l'Église de cheminer vers ses épousailles avec le Christ. Le mariage, en fait, va être un petit peu comme une lumière, c'est-à-dire que, en avançant avec Emmanuel, si on fait le tour comme ça de cette chapelle, on vous éclaire sur cet appel au don que vous êtes tous invités à faire auprès du Seigneur. Et donc, en ça, le mariage est image de cette union du Christ et de l'Église. Et donc, en ça, le mariage est ici, par sa présence missionnaire. Elle annonce la fin. Elle annonce cette union du Christ et de l'Église. À nous de le vivre, nous devons... Plus nous allons nous conforter, nous conformer, merci, nous conformer au don du Christ époux et de l'Église épouse, plus nous allons essayer de nous approcher, d'imiter, plus nous allons éclairer, rayonner, comme des rayons qui partent et qui vont éclairer toute l'Église qui est appelée à se donner au Christ. Alors on va me dire, oui, mais moi je ne suis pas mariée, je ne suis pas concernée. Chaque personne, dans son état de vie, individuellement, et moi, comme moi, Marie-Gabrielle, mariée, quand je reçois le Christ dans l'Eucharistie, je permets à toute cette Église de s'unir au Christ. Pas plus, pas moins que les autres. Chacun, nous sommes appelés à ce don. Et donc, cet éclairage d'Éphésiens 5, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour les personnes mariées. Le message pour les personnes mariées, c'est voilà ce que tu es appelé à faire parce que tu es appelé à éclairer autour de toi. Parce que tu es appelé à redire que toute l'Église est là, invitée à se donner et à accueillir le Christ comme son époux et à se soumettre à cet époux et l'accueillir, à se livrer par amour pour Jésus. Et ça, c'est ce qu'on devrait apprendre au catéchisme à chaque enfant. Vous voyez, et le dire et le redire. Parce que, comme dit ce jeune, le corps, donc le don de son corps, est le pivot du salut. C'est par là qu'on va passer pour le salut, c'est en me donnant. Alors c'est vrai, c'est un chemin de croix. Hein, le Seigneur, il est là pour nous aider, il vient prendre son joug avec nous. C'est un chemin de croix. Et on a cette pédagogie qui nous est donnée dans l'Église de cheminer et de bien comprendre le chemin de croix. Mais au bout du chemin de croix, il y a quand même la résurrection. Et alors évidemment, on ne vit pas tout de suite cette résurrection, mais le lendemain, le jour de Pâques, c'est quand même la résurrection qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est dans cette victoire de la mort. La mort a écrasé, la vie a jailli, la vie est victorieuse. Et donc, c'est ça qu'on doit regarder. C'est-à-dire que mes limites, mes fragilités, mon égoïsme, j'avance que quand même d'un centimètre par an, quoi. C'est décourageant. Mais c'est pas grave. Le Christ regarde ce que tu as fait pendant un centimètre. Tout cet amour qui t'a fallu. Il y en a qui vont faire 6 mètres. Toi, tu vas faire 1 centimètre, mais ce n'est pas grave. Le Christ regarde ce que tu avances, cet accueil que tu fais. Comment tu accueilles le Christ dans ta vie? Et c'est un chemin de croix, comme le Christ a souffert sur la croix en se donnant pour nous. C'est dans cette rédemption du corps que s'éclaire pleinement le mariage et la virginité pour le royaume, mais aussi le mystère de la souffrance de la naissance à la mort. Alors la souffrance peut prendre un sens. La souffrance a une dimension de rédemption. Alors même, moi, si je suis par exemple, imaginons, curé de paroisse, toute la dimension pastorale de ma paroisse devrait pouvoir être coloriée, éclairée par ces épousailles du Christ et de l'Église en vue du salut. Que ça soit les parents qui viennent demander le baptême pour leur enfant. Pourquoi? Comment allez-vous faire cheminer cet enfant? Transmettons ce message merveilleux aux parents qui viennent demander le baptême pour leur enfant, à la personne qui est en fin de vie, en train de se préparer pour les épousailles, pour la vie éternelle. Vous savez, quand on se prépare pour le mariage, avant la préparation au mariage, il y a une période qu'on appelle les fiançailles. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que quand on est en train doucement de partir, là, on est en fin de vie, ben on est un peu comme dans des fiançailles avec le Seigneur, l'époux. Vous vous rendez compte si on préparait? Vous voyez, si vous, madame, vous étiez tout d'un coup en fin de vie et que j'étais à côté de vous, en train de vous dire, c'est l'époux pour l'éternité que vous allez rencontrer, préparons ensemble avec vous votre cœur et tout votre corps qui est souffrant, qui est peut-être blessé, etc., pour les épousailles, pour la vie éternelle. Mais vous voyez que ce serait tellement plus paisible, enfin, pour avoir accompagné et ma mère et mon père dans la vie éternelle, je peux vous dire que c'était une grâce extraordinaire de pouvoir leur dire c'est la vie éternelle qui est derrière papa, et de se préparer et d'ouvrir les yeux et de dire ça y est, je pars, et son âme est partie dans la vie éternelle. Quel bonheur de pouvoir préparer quelqu'un qu'on aime à ses fiançailles. Vous voyez que toutes les étapes de la vie, on pourrait transmettre, on pourrait évangéliser, injecter l'amour du Christ pour chacun de nous à tout moment de la vie. Quand je vois des gens qui visitent des maisons de personnes âgées, qui sont souvent en fin de vie, je leur dis, mais bien sûr, vous les préparez, ils sont tous des fiancés que vous avez là. Bien sûr, on vous a formés pour préparer toutes ces personnes à la rencontre de l'époux pour la vie éternelle. Ah, mais pas du tout. Mais mon Dieu, mais quel dommage. C'est quand même, c'est pas 90 ans, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont peut-être coupés du Christ toute leur vie. Peut-être les 5 jours qui restent là, c'est le moment de les fiancer à Jésus. Vous vous rendez compte, c'est l'éternité qui est derrière. C'est 90 fois 90 ans, multiplié par 90, et encore plus. Le ciel serait rempli beaucoup plus. D'accord ? Et voilà, on n'a pas le droit de priver les gens de ça. Et donc, d'où l'urgence de le dire dans la rue, de le dire à tous, à celui qui vend du pain, à celui qui est sur le trottoir, à mon collègue, à mon voisin. Le Christ va se donner. Ah, en plus, c'est la saison, là. Le Christ, il se donne. Voilà, parce que moi, je suis sur un sujet en ce moment, j'ai focus sur un truc. Le Christ se donne entièrement, là, tout de suite, sur la croix. Ça, c'est le truc qui m'occupe l'esprit en ce moment, je vais te le partager. Oui, parce que ça, tout le monde a le droit à entendre ce message. Tout le monde a le droit de l'entendre. C'est dans cette rédemption du corps que s'éclaire pleinement le mariage et la virginité, mais aussi le mystère de la souffrance, de la naissance à la mort. La grâce de la rédemption donnée par l'Esprit-Saint et le sacrement nous permet d'avancer sur ce chemin en vue du don final à Dieu, à la résurrection. Donc c'est avec la grâce de la rédemption que nous allons vivre bientôt, donnée par l'Esprit-Saint et les sacrements, qu'on peut avancer. Plus encore, le don total de notre corps, en particulier de ses souffrances, de ses limites, de ses combats, a une dimension rédemptrice pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes. Vous savez, ce petit sacrifice qu'on vous demande de faire pour les autres. Voilà. Quand j'étais petite, j'ai une grand-mère qui me disait, elle avait un canapé-lit dans son salon et elle avait des coussins. Et ces coussins, et donc quand je couchais chez elle, j'enlevais la housse et ça me faisait un oreiller. Et quand je refaisais, je remettais l'oreiller dans la housse. Et il y avait des petites pressions, mais pas les pressions qui sont séparées tous les 4 cm, mais tous les centimètres. Alors moi, je faisais 5 pressions, ça ne se voyait pas, je remettais le coussin. C'était bien fait. Et elle reprenait le coussin et elle me dit, ma chérie, tu vois, chacune de ces pressions, tu peux sauver une âme. Et là, je me suis dit, c'est dingue. Si elle ne me l'avait pas dit, beaucoup de choses dans ma vie n'auraient pas été offertes. Si petite soit-elle, fais bien ça. Mets bien le couvert. Mets bien les couverts droits par amour pour toi, Seigneur. Je me donne là. Mets bien ça. Tout ce qu'on peut faire de bien par amour pour les autres, on se donne dans son corps, chaque instant. Et là, on chemine vers ces épousailles avec l'Esprit-Saint, avec les sacrements. Voilà. Donc en particulier dans les souffrances, à la dimension rédemptrice. Donc ça a une dimension rédemptrice pour nous-mêmes et pour les autres. Puisque le Christ époux a uni dans le don de son corps la dimension sponsale et rédemptrice. Donc par le don, j'ai une dimension rédemptrice. Parce que le Christ a uni cette dimension sponsale et la rédemption. Nous tombons parfois, voire même un peu souvent, en tout cas pour moi. Mais le Christ époux nous relève toujours, toujours, particulièrement dans le sacrement de réconciliation. Il nous renouvelle, nous raffermit dans le sacrement de l'Eucharistie. Et si vous prenez le temps, il y a un livre qui s'appelle « Prêtre et époux pour interrogation » du père Frédéric Dumas, qui est pour les prêtres. Donc déjà, tous les prêtres que vous connaissez, il faudrait leur offrir ce livre. Parce que dedans, alors lisez-le avant de leur offrir, mais il y a chaque sacrement, il explique la dimension sponsale d'épousaille de chaque sacrement. Et alors là, vous ne voyez plus les sacrements de la même manière. Vous voyez qu'Éphésiens 5, ce n'est pas fait que pour les gens mariés. Amen.
Je voudrais juste conclure, nous sommes à quelques jours de la Semaine Sainte, et je pense que l'Église l'épouse nous invite à faire ce chemin et à rentrer dans ces épousailles. Et si on vit cette Semaine Sainte au rythme des épousailles, c'est une anticipation du banquet des noces de l'agneau. Donc rentrons dans cette sponsalité dans laquelle nous invite à cheminer Jean-Paul II pour pouvoir véritablement rentrer dans cette union au Christ. Et l'Église nous propose des tas de choses. Prenons le temps, ouvrons nos oreilles, méditons, etc., sur ces merveilles que l'Église nous donne. Il y a des vêpres, il y a des tas de choses qui existent. Rentrons dans ce chemin des épousailles. Dans les épousailles, on prend du temps, on met des fleurs, enfin, il y a tout un ensemble d'attentions. Quand on voit, je pense ici, les attentions autour de l'autel, etc., il y a tout. Mais tout ça, ça fait partie des épousailles. Et dans ces épousailles que l'Église nous propose, elle nous propose de les vivre et de les incarner. Nous sommes incarnés, le Christ est le Verbe incarné, et je pense que c'est important de rester dans cette incarnation corporelle qui doit nous amener à cette vision spirituelle et d'être ressuscité. D'être, qu'on a évoqué dans la précédente, nous sommes amenés à être des ressuscités, comme l'a dit Marie-Gabrielle, pour l'éternité. Bienvenue au club. J'espère que moi-même, je m'invite, je dis bienvenue au club, moi compris, j'espère, j'ai cette volonté. Bienvenue, à ce banquet des noces de l'agneau. Il y a des tas de gens là-haut qui nous attendent.
Et pour faire le lien avec la liturgie du jour, je vous lis quelques extraits de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, qui est la lecture d'aujourd'hui. « Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ, mon Seigneur. » Je saute. « Frères, quant à moi, une seule chose compte. Oublions ce qui est en arrière. » C'est ça la confession. Oublions ce qui est en arrière. Et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Il nous reste à courir jusqu'à Pâques. Amen.
Je crois que j'ai coupé. Non, je peux.